Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Place de la Toile, le magazine des cultures numériques. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au sommaire de cette émission, plongé dans son ordinateur, Thibaut Henton répondra à la question « Comment une recherche Google peut-elle valoir 3000 euros d'amende ?» Thibaut, que l'on retrouvera en toute fin d'émission pour son complément d'enquête. Le son, ce sera à l'international, retravaillé par le rap et le jeu vidéo. Quant à nos invités, Yann Moulier-Boutan et Yves Citon pour parler lutte des classes sur le web. Il y a un peu plus d'un an, c'était à l'initiative d'Antonio Cassilli et à l'occasion de la sortie d'un ouvrage collectif tout à fait intéressant du titre de Digital Labor, The Internet as Playground and Factory, donc qu'on pourrait traduire par travail numérique, Internet comme terrain de jeu et usine. On avait dressé un portrait de l'internaute en travailleur exploité. Avec Antonio Cassilli et Yann Moulier-Boutan, on avait tenté de repérer les lieux et les formes d'une exploitation qui passe par une production de valeur non immédiatement désignée comme tel. Pour le dire autrement, à chaque fois que vous adressez une requête à Google, que vous mettez un post sur Facebook, que vous likez une page, vous produisez des données qui sont exploitées, vendues par ces entreprises. Vous produisez donc une forme de valeur, vous travaillez en un sens. Alors en un an, cette question du travail numérique est montée en puissance, associée à celle de la valeur des données que l'on produit. Et on y revient ce soir à l'occasion d'un dossier que la toujours très bonne revue Multitude consacre à l'exploitation sur le web. C'est un dossier contenu dans son numéro 54 qui paraît d'ailleurs sous clé USB comme une sorte de jeu total. Et on en parle alors même que la CGT a appelé à une grève dans les entrepôts d'Amazon ou que des conflits rappelant pour le coup des luttes des classes très classiques apparaissent dans la Silicon Valley. Alors on en parle ce soir avec Yann Moulier-Boutan qui est au téléphone avec nous. Bonsoir Yann Moulier-Boutan.
Bonsoir.
Vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Multitude et vous signez un papier, le dernier papier de ce dossier. Vous enseignez les sciences économiques à l'Université Technologie de Compiègne et les cultures numériques générales ou générales numériques à l'École des Beaux-Arts de Saint-Étienne. Et avec vous, Yves Citon, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes avec nous autour du plateau, vous êtes aussi membre du comité de rédaction de la revue Multitude. Vous avez coordonné ce dossier, vous avez rassemblé les textes et vous en avez signé l'introduction, qui n'est d'ailleurs pas forcément en total accord avec ce que dit Yann Moulier-Boutan en fin de dossier, ce qui est intéressant. Donc il y a des dissensions au sein de...
C'est pour ça qu'on s'appelle Multitude et pas à la ligne du parti.
Ah, c'est ça. C'est
au pluriel, bien. Multitude.
Oui, c'est vrai, au pluriel.
Et vous êtes propre. J'approuve.
Vous approuvez. Ah, bon, si vous êtes au moins d'accord sur le fait que vous n'êtes pas d'accord, c'est très bien. Et vous êtes professeur, Yves Citon, de littérature du 18e à l'université Grenoble 3 et auteur, comme Yann Moulier-Boutan, de nombreux ouvrages sur des questions d'ailleurs assez diverses. Alors j'aimerais qu'on s'attarde quand même sur cette question qu'on avait abordée finalement assez rapidement lors de l'émission qu'on avait faite ensemble il y a un an, sur les formes d'exploitation qui sont à l'œuvre. Et il me semble, et c'est pour ça que je rappelais à dessein ce qui se passe dans la Silicon Valley actuellement autour des bus de Google dont nous avait parlé Thibaut la semaine dernière ou il y a 15 jours, ou alors la CGT qui appelle à la grève dans les entrepôts d'Amazon. C'est-à-dire qu'avant de définir des formes nouvelles d'exploitation sur le web, il y a des formes très anciennes d'exploitation qui sont à l'œuvre dans les cultures numériques, Yves Citon.
Tout à fait. Ben, c'est ce qu'on essaye de dire avec Multitude depuis un certain temps et que Yann Moulier-Boutan essaye de penser à travers le capitalisme cognitif, pas comme quelque chose qui remplace l'ancienne forme de capitalisme et qui efface tout le reste et qu'on soit passé de la paysannerie à l'industrie, de l'industrie au numérique. Mais on a toujours besoin de manger du pain et du riz. On a toujours besoin de produire à travers des usines des ordinateurs et se rajoute une couche de numérique qui a néanmoins un statut particulier parce qu'elle force le reste, ce qu'il y avait déjà et ce qu'il y a dessous, à se reconfigurer. Donc de même qu'il y a toujours des problèmes de paysannerie, il y a toujours des problèmes d'exploitation industrielle et se rajoutent à ça des formes d'exploitation du numérique qui sont toujours fortement connectées avec le mode de production, par exemple, des objets. Donc parler d'exploitation sur le net, de lutte de classe, etc., ça ne veut pas du tout dire oublier qu'en Chine, il y a des corps humains qui travaillent dans des usines avec des horaires imposés, avec des conditions d'aliénation extrême, avec des pressions salariales. Et donc, la première forme d'exploitation autour du numérique, c'est de l'exploitation industrielle telle que Marx a pu en rendre compte, donc avec le travailleur chinois. Donc ça, il ne faut pas du tout, nul d'entre nous en tout cas ne cherche à l'évacuer, nier ou quoi que ce soit. De même que lorsqu'on parle d'immatériel, il y a quelque chose qui est lié au numérique, qui est plus que simplement de la matière ou qui est une forme de matière qui fait des choses différentes. N'empêche que ça ne passe que par des supports matériels, que ce soit nos cerveaux, les cellules de notre cerveau ou des chips ou des choses très matérielles qui pollue, donc on sait aussi que l'immatériel a un impact environnemental de plus en plus grand, que ce soit pour le dérèglement climatique, que ce soit pour les métaux rares, etc. etc.
Mais est-ce que dans ces formes de lutte des classes, est-ce qu'on est quand même dans des formes de lutte des classes, dans ces lieux-là, de production matérielle, qui reste très très classique, qui aurait pu être la même chose avec, je sais pas, des voitures ou auparavant du textile, etc. Ou du fait que peut-être que c'est une partie oubliée de l'économie numérique, etc. Ça prend des formes qui sont un petit peu différentes, Yves Citon. Et après, Yann Mouliéboutan, s'il a quelque chose à ajouter.
Oui, je ne sais pas si... Enfin, est-ce que ça prendrait des formes différentes parce que ça serait encore plus occulté? Parce peut-être, que maintenant, on s'imagine, notre imaginaire est dans des clouds, dans des nuages et pas dans des usines. Mmh. Peut-être. En même temps, je ne suis pas sûr qu'au 19e siècle, tout le monde lise tout le temps Zola 24 heures sur 24, Germinal. Et donc, peut-être que c'était aussi quand même occulté au 19e siècle, à l'âge d'émergence du capitalisme industriel. Donc là, je ne suis pas sûr que ça soit très différent. Ce qui nous a intéressé, nous, plutôt dans le... Mais peut-être, ce qui nous a plutôt intéressé dans le dossier, c'est quelles autres couches se rajoutent là-dessus qui sont en continuité. Alors par exemple, un exemple qu'on reprend, c'est une entreprise new-yorkaise qui doit traduire une vidéo de 20 minutes à peu près de l'anglais à l'espagnol. Mmh. Et donc, qui fait une sorte d'appel d'offres dans les compagnies de traduction autour de New York et qui reçoit des devis pour à peu près 1 500 $ pour faire une traduction de l'anglais en espagnol. Puis qui passe par quelque chose de l'ordre de Mechanical Turk, cette espèce de plateforme où des gens qui cherchent un peu de travail pour arrondir les fins de mois et puis des gens qui ont des petites tâches ponctuelles à faire se mettent en rapport grâce à Internet.
C'est Amazon
qui est là derrière. Voilà. Il y a toute une histoire avec Mechanical Turk, mais on peut laisser ça de côté. Et donc, si on poste la même tâche, traduction d'une petite vidéo de 20 minutes de l'anglais en espagnol, on a des gens qui vont faire ça pour 22 dollars, en Amérique latine. Et puis on se dit, oui, mais alors ces gens qui font ça pour 22 dollars, ils seront incapables, ils vont simplement mettre ça dans Google Translate et puis ça va faire quelque chose de calamiteux. Donc on a quand même une plus-value de qualité si on fait ça à New York. Et en fait, on s'aperçoit que 22 dollars, c'est le meilleur marché, mais qu'il y en a un autre qui fait ça pour 33 dollars, qui a une évaluation de 4,9 étoiles. Ça veut dire que les gens qui ont demandé des traductions de l'anglais à l'espagnol auparavant ont presque tous été immensément satisfaits de lui. Donc on passe de 1 500 $ pour faire le même travail à 30 $. Disons que là, c'est plus le travailleur chinois, mais c'est le traducteur équatorien.
Ou indien, beaucoup d'indiens sur le Mechanical Turk.
Alors en l'occurrence, c'était l'espagnol, ça marchait mieux pour l'Amérique latine. Donc on a deux choses, le travailleur industriel chinois, qui est dans un mode d'exploitation classique, le traducteur équatorien, qui fait du travail, qui n'est pas forcément numérique, mais qui se trouve mis en rapport avec des employeurs grâce au numérique.
Mmh. Yann Mouliéboutan, vous vouliez intervenir.
Alors, je ne suis pas trop d'accord. Je pense que le numérique ajoute une dimension qui est complètement spécifique.
Ah.
Il ajoute une dimension spécifique parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fois, il maintient le capitalisme. C'est quand même la plus grande usine du monde. C'était Foxconn, 800 000 employés et ouvriers sur la plateforme de Shenzhen. Maintenant, il y a deux autres plateformes en Chine, même si celle de Shenzhen a diminué. On est quand même dans des unités de 500 000 ouvriers,
ce qui est
absolument colossal. Donc là, ça ne s'est jamais... Je crois d'ailleurs que Marx se serait rué là-dessus. Alors ça, c'est le côté, si vous voulez, d'un super Manchester mondial. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier que ces ouvriers qui polissent les écrans plats de nos iPhones, des portables Dell, de tout ce que vous voulez, sont en même temps ceux qui participent à Weibo, sont équipés de téléphones mobiles, fonctionnent sur le web, s'expriment à travers ça. Que serait-il passé si les ouvriers de Manchester avait été employé à produire la grande presse et les journaux. Est-ce que vous vous rendez compte de du catapultage qui serait produit? Et il ne faut pas oublier aussi que la dimension numérique joue à la fois à l'aval pour les ouvriers qui fabriquent tout ça et qui sont quand même à la pointe des technologies, et d'autre part que cette répercussion, cette chaîne mondiale transforme énormément les choses. Donc je dirais que le numérique informe, reformate tout ce qu'a dit Yves Évrai, reformate le tertiaire, le secondaire pour un espèce de quaternaire incroyable, le primaire, le travail agricole, mais en même temps, il informe les objets, les innovations technologiques. Donc il s'agit d'un secteur qui devient hégémonique. Et cette hégémonie, elle est en partage. Ça veut dire qu'il y a des fuites, il y a des dysfonctionnements, il y a des ratés, il y a des choses qui échappent au contrôle étatique. Donc on n'est pas du tout dans une dimension sectorielle d'un secteur.
D'accord.
C'est-à-dire que quand Manchester, c'était 250 000 ouvriers qui ont conquis avec des produits industriels la planète, mais ça a mis deux siècles. Là, on est dans quasiment l'instantané. Donc il y a des catapultages, si vous voulez, Shenzhen plus Wikileaks, plus la révolution arabe, plus la transformation des objets intelligents et du monde de l'Internet des objets. Voilà exactement la dimension, si vous voulez, je dirais, c'est du super concentré de tout ce que le capitalisme avait tout doucement produit en 250 ans ou 300 ans.
Mais qu'est-ce que ça change, ça, le fait que ce soit plus accéléré?
Ça change énormément, c'est-à-dire que le problème, ce n'est pas la conscience. Ce n'est pas le fait d'être exploité, la conscience, est-ce qu'on est exploité manuellement, etc. Ça change dans la façon, dans les agencements, dans la façon dont les événements se concatènent. Ça change dans les dispositifs machiniques, aurait dit Deleuze et Guattari. Ça change la capture, la rhétorique, la conviction, les processus de subjectivation. Donc tout ça, ça fait quand même quelque chose qui n'a plus grand-chose à voir avec la période précédente.
D'accord. Alors, donc, on en était à c'est une précision importante que vous avez faite, Yann Moulier-Boutan. Alors, si on continue notre procédé qui consiste à essayer de détecter les formes d'exploitation, donc formes d'exploitation très classiques, donc vous avez montré qu'elles se reformulaient, Yann Moulier-Boutan, et c'est tout à fait éclairant ce que vous venez de dire. Alors, ce dont on parlait tout à l'heure, Yves Citon, c'est-à-dire Mechanical Turk d'Amazon, c'est-à-dire ces plateformes qui mettent en lien donc des gens qui ont des petites tâches à faire exécuter, que les ordinateurs n'arrivent pas à exécuter, et des travailleurs qui le font de manière un peu dispersée, comme ça, des petites tâches sur lesquelles ils n'ont aucune vision globale et qui sont assez mal payées. Mais donc ça, ce serait la deuxième forme d'exploitation, mais qui est, Yves Citon, une forme d'exploitation assez classique, mais reformulée.
Et pourquoi classique? Une des raisons, c'est que c'est quand même une sorte de rapport salarial. Alors, on a évacué du salariat tout ce qui vient avec en termes de droits, en termes de... Enfin, ce qui fait le salariat chez nous, qui fait que ça coûte 1500 euros à New York, même si New York, c'est pas la France. Donc, il y a plein de choses du rapport salarial qui ont disparu. N'empêche qu'il y a une sorte de contrat, à savoir, on se met d'accord, vous allez faire ça et vous allez gagner quelque chose. Alors, 33 au lieu de 1500, vous allez gagner quelque chose. Ce qui devient plus nouveau, peut-être, mais on va voir que c'est peut-être pas si nouveau que ça, mais ce qui devient, en tout cas, il faut remarquer, c'est ce dont parlait le livre sur lequel vous avez fait l'émission la dernière fois, à savoir du free labor, du travail gratuit et libre. Donc, c'est toujours cette ambivalence de free en anglais. Il faut vraiment traduire libre et gratuit. Donc, ce travail libre et gratuit, qui n'a pas l'air d'être du travail qui échappe, a priori, complètement à un rapport salarial, qui fait... Alors, ça va être mon troisième personnage. On a vu le travailleur chinois, le traducteur équatorien, et puis il y a le ou la fan irlandaise qui lit Harry Potter, qui a du plaisir à lire Harry Potter, et puis qui passe son temps à réinventer d'autres histoires de Harry Potter dans ces espèces de romans de fans.
Les fanfictions.
Les fanfictions, voilà. Où on fait ça pour le plaisir, parce qu'il n'y a personne qui nous paye. On fait ça parce qu'on est tellement dans ce monde-là qu'on a envie de nourrir cet imaginaire-là, de communiquer avec d'autres là-dessus. Sauf qu'il y a des éditeurs qui viennent là-derrière, qui observent ce qu'on fait, qui se nourrissent de ce qu'on fait et qui peuvent tirer du profit de, alors soit ce qu'on produit comme petite fiction, comme retour, comme affect, comme information en tant que fan, soit simplement qui peut mettre de la publicité sur ses sites et en tirer le jeu. Donc là, on a quelque chose qui vient en aval de la production, qui n'est pas du tout dans un rapport salarial ou de rétribution, qui est productif, mais qui vient se faire, dans une sorte de plus-value, vient se faire capturer par des mécanismes qui passent par Internet. Et là, il y a tout un espace de labor, hein, soit le travail libre et gratuit, free labor, soit de labor, le labeur, le travail ouvrier, mais sous forme de jeu, qui ouvre de nouvelles portes. Et là, il y a toute une partie du dossier, d'ailleurs, réfléchit sur le statut de la revendication du free, du libre et gratuit, qui a été, nous dit un auteur comme Matteo Pasquinelli, quelque chose d'émancipateur. On a cru, on a pensé, il y avait plein de bonnes raisons, Yann va nous le dire, de penser qu'il y avait quelque chose d'extrêmement nouveau et d'extrêmement prometteur dans cette culture du libre et gratuit. Et des gens comme Pasquinelli nous disent, attention, ce libre et gratuit, c'est du travail que nous fournissons, alors en ayant du plaisir, tant mieux, mais qui se fait récupérer et qui produit du profit qui ne nous revient pas. Et entre-temps, nous devons quand même payer nos loyers, payer nos factures de téléphone ou d'Internet. Et tant qu'on travaille pour le plaisir, d'autres se remplissent les poches. Et peut-être que ça serait bien qu'on en récupère un peu.
Oui, Yann Mouliéboutan, allez-y. Oui,
il y a quelque chose quand même, il y a une dimension très importante dans ce travail. C'est qui est exploité.
Ah.
Parce qu'il s'agit de savoir, si vous voulez, la figure du travailleur, vous le savez bien, exploité, de la plus-value, elle se construisait sur la figure du prolétaire, de l'ouvrier, je dirais, non pas au singulier, mais au particulier. Là, ce qui est exploité, c'est un nous, c'est un nous singulier, c'est la singularité, et je dirais, c'est les petites multitudes, pour parler comme Leibniz, les petites perceptions. C'est des choses imperceptibles, comme le bruit de la mer, mais qui sont d'une puissance productive, extraordinaire. Et je dirais, ça n'est pas simplement la métaphore quand on a parlé du traducteur anglais, machin, etc. Oui, c'est une partie du traducteur guatémaltèque ou je ne sais pas où. Bon, mais c'est une toute petite partie de ça. Dans ces petites perceptions, ces petites multitudes, il y a la rumeur de la ville en interaction. Elle produit des savoirs, des réponses adaptées, des innovations. Elle produit des tas de choses nouvelles qui sont en amont de toutes possibilité de plus-value. Donc elle produit de la pollinisation et pas simplement du miel. On peut calculer l'exploitation sur le miel et sur la cire produite par une abeille. Quand on parle de la pollinisation et de l'effet pollinisateur, c'est un nous, c'est l'intelligence collective connectée qui est exploitée et captée par ce capitalisme. Mais donc, je dirais que c'est ça la dimension fondamentale qui nous fait basculer dans le général intellect, et je dirais dans une phase où le capitalisme a quasiment réalisé dans ses processus de capture et dans les moyens matériels qu'il a mis en place, quelque chose qui est de l'ordre de ce que Marx décrivait comme étant le communisme, c'est-à-dire le dépassement du travail classique. Et c'est ça l'étrange qu'il y a dans ce capitalisme, c'est qu'il exploite, si vous voulez, c'est comme s'il avait lu les Grundrisse et qu'il exploitait l'intelligence collective en connexion. Et donc, d'un certain point de vue, les travailleurs, si vous voulez, ne sont plus des travailleurs, sont des actifs qui débordent complètement la conception, voilà, je travaille sur telle et telle chose, je fais des choses. Bien sûr, il y a le précariat qui fait ça et qui vit dans la débrouille et qui essaye. Mais il y a en plus toute cette activité, encore une fois, des multitudes, là, j'ai envie de dire, et des petites multitudes.
Juste pour donner un exemple très très concret de ce que vous racontez, Yves Citon, vous citez dans votre papier d'introduction au dossier le CAPTCHA. Le CAPTCHA, c'est cette espèce ces quelques lettres qu'il faut transcrire pour montrer qu'on est bien un homme et pas un robot. Hein, ça, on fait tous cette expérience-là sur Facebook ou sur n'importe quelle autre plateforme. Et en fait, le CAPTCHA, ça sert à rendre plus performant le logiciel de transcription de textes manuscrits en texte tabuscrit. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'utilisation, ce qui n'est pas un travail, ce que disait Yann Mouliéboutan, c'est vrai, c'est pas un travail, c'est une activité. Voilà, on remplit notre CAPTCHA pour bien montrer qu'on est des humains. Et en fait, en faisant ça, on participe au perfectionnement de logiciels qui vont par ailleurs être vendus, utilisés, etc., par des entreprises. Bon. Alors ça c'est... Pardon, Yves Citon. Non, je voulais juste qu'on avance un tout petit peu, parce que là, on en est à la troisième forme d'exploitation. Bon. Mais il y a d'autres formes d'exploitation qui sont apparues, dont une que vous nommez, Yves Citon, comme protocolaire. Alors qu'est-ce que c'est que cette forme d'exploitation que vous appelez protocolaire?
Voilà, donc là, on s'éloigne toujours des modes d'exploitation qu'on a l'habitude de reconnaître. Et comme vous dites, CAPTCHA, c'est difficile de dire qu'on se fait exploiter lorsque, c'est comme une clé. On a besoin d'une clé pour entrer quelque part. Est-ce que lorsque je mets une clé dans une porte, je me fais exploiter? Ça devient très, très difficile de parler d'exploitation. Alors, de même, ce que je propose d'appeler exploitation protocolaire, c'est le fait que soit on a accès à certains services gratuits qui nous branchent sur certaines plateformes ou sur certains lieux comme Facebook, dont on devient en quelque sorte dépendant, soit lorsqu'on fait du travail avec des logiciels propriétaires comme Microsoft Word, on travaille, peut-être qu'on a payé ou qu'on a pu y avoir accès, on met tout son travail là-dessus et on devient en quelque sorte prisonnier de ceci parce qu'il y a des coûts de transfert énormes si on doit tout passer ailleurs, si on doit sortir d'un réseau dans lequel on a pris ses habitudes et construit ses alliances, il y a un coût énorme qui est lié à ça. L'autre exemple, c'est de penser à tout ce qui se fait maintenant avec le cloud, où lorsque j'avais toutes mes données sur mon disque dur, alors je risquais un virus, je risquais plein, mais je pouvais le sauver, etc. Et au moins, c'était un petit peu à moi. Lorsque tout passe par le cloud, j'ai même plus accès direct à mes données à moi. Ces données sont... Voilà, il y a tout un protocole, il y a toute une série de codes qui conditionnent mon accès à ceci. Et donc là, c'est plus vraiment directement une question d'argent. Il y a bien de l'argent derrière parce que Facebook fait du profit en sachant qu'il y a des millions et des millions de personnes. Mais c'est plutôt une sorte d'emprisonnement de facto dans certains codes, dans certains protocoles, étant donné aussi que la plupart d'entre nous n'avons pas accès, faute de savoir ou de mettre assez de temps, dans la transformation de ces protocoles. On ne peut pas ouvrir le capot et aller reprogrammer les choses. En général, quelqu'un comme moi, 50 ans, j'ai jamais vraiment fait de programmation, on me donne des programmes et je m'en sers, mais je peux pas vraiment les hacker, rentrer derrière.
Et la dernière, Yves Citon, pour qu'on ait une idée de ces différentes formes d'exploitation, et c'est celle à laquelle vous attelez plus particulièrement vous et qui vous intéresse par ailleurs, qui est la question de l'attention.
Une exploitation attentionnelle.
Ça, faut vous nous expliquer le cheminement. Qu'est-ce qui fait qu'on peut parler aujourd'hui de l'exploitation attentionnel, Yves Citon.
Alors, ça correspond à dire, par exemple, que lorsque je regarde la télévision, je travaille pour Coca-Cola ou pour Renault. Ce qui est de nouveau encore plus aberrant que lorsque j'utilise CAPTCHA. C'est par plaisir ou par fatigue, je ne sais pas, que je regarde la télévision. Et là, on nous dit, je travaille avec quelqu'un qui s'appelle Jonathan Beller, qui est un théoricien du cinéma, qui a fait tout un livre là-dessus, très situationniste d'ailleurs, c'est de reprendre la société du spectacle, Debord et compagnie, qui nous dit, qu'est-ce qui fait la valeur de la Joconde? Pourquoi est-ce qu'il y a des millions de gens qui viennent du Japon, d'Allemagne, de je ne sais où, pour se précipiter devant la Joconde? La valeur de la Joconde, c'est le fait qu'il y a tellement de regards qui regardent la Joconde et qui la considèrent comme le chef-d'œuvre de l'humanité. C'est le regard des autres qui fait la valeur de la Joconde. Et il nous dit, prenons ça comme exemple, « to look is to labor ».
Regarder,
c'est travailler. Et après, il joue toujours, donc c'est des textes en anglais, il joue sur l'expression anglaise to buy, c'est acheter quelque chose. Mais on dit aussi, quand si vous me dites quelque chose, un argument, vous me donnez un argument, I'll buy it. Ça veut dire, j'y crois. Et il nous dit justement, regarder, ça implique, ça induit des effets de croyance, ça induit des effets de valorisation. Et donc, le regard lui-même a de la valeur ou est producteur de valeur. Et à partir de là, donc ça c'est une petite forme intuitive, à partir de là il y a quelqu'un qui s'appelle Georg Frank, dont on a traduit un article dans ce dossier-là, qui depuis les années avant même Goldhaber, et qu'on parle beaucoup d'économie de l'attention sur Internet, avait fait un livre qui s'appelle justement « Economy of Aufmerksamkeit », qui nous expliquait que l'attention ne va pas remplacer l'argent, en tout cas du jour au lendemain, mais qu'il y a quelque chose qui est en train de devenir une rareté première, qui est justement l'attention. À savoir, à partir du moment où avec Google Books, avec Gallica, avec plein de choses, avec tous les sites, je peux avoir un accès gratuit à quasi une infinité de choses. Ce qui est la principale rareté, ce que nous dit Yann depuis très longtemps, et il a raison, c'est que une des propriétés du numérique, c'est justement que les biens cognitifs, les biens de connaissance ne sont pas rivaux. Je peux vous donner une information sans la perdre, je peux vous apprendre l'allemand sans perdre l'allemand.
Donc ils ne sont pas rares, c'est pas les biens qui sont rares, c'est l'attention.
Voilà, mais il y a une autre rareté qui se met là en aval du point de vue de la réception qui fait qu'on a quand même que 24 heures par jour dans lesquelles il faut quand même un petit peu dormir, etc. etc. et que ça serait l'attention qui serait la principale rareté. En général, quand Yann me contredit, il a raison, donc il faut écouter ce qu'il dit.
Pas toujours. Yann Mouillet-Boutan.
Je vais rajouter quelque chose. C'est que, si vous voulez, le cas de l'attention, il y a deux façons de l'interpréter. La façon classique, c'est les économistes de la vieille économie qui reviennent et qui nous disent « Vous voyez bien qu'on est revenu au monde de la rareté. Donc, les économistes ont raison. L'économie, il n'y a d'économie que ce qui est rare. Comme le reste, l'information, c'est pas rare, on s'en fout. L'économie, l'attention, c'est rare. Donc, voilà la chose. C'est le raisonnement de M. Lelay que citait Yves tout à l'heure. Mais je pense que l'attention n'est qu'un des cas particuliers d'un phénomène beaucoup plus général qui est que comme si vous voulez, nous stockons de l'information, de la compilation, de façon automatique par des robots, et que cela se dévalorise, ce qui apparaît comme fondamental, c'est pas seulement l'attention, c'est l'intelligence, c'est le relationnel avec toutes ces modulations, ce que j'appelle des immatériels de deuxième degré, des choses qu'on ne peut pas codifier facilement, qui sont d'une nuance que seul l'art, autrefois, nous permettait d'approcher. Le complexe, autrement dit, la richesse, c'est le complexe. La richesse, c'est le tout différent de la somme des parties. Mmh. Et donc, c'est aussi bien le care que l'attention, que l'amour, que le désir. D'accord. Alors, ce sont ces éléments-là, ce sont ces affects-là qui sont porteurs de la valeur et sur lesquels se cristallisent maintenant les possibilités les plus importantes pour le capitaliste de ramasser l'immense morceau de la valeur ajoutée. C'est pour ça, donc l'attention, si vous voulez, est là, à mon avis, pas simplement comme rareté, elle est là comme exemple de ces fameux immatériels flous ou mous ou complexes que vraiment les dispositifs de captation du capitalisme vectoriel, on y reviendra sans doute, ne peuvent le faire que à travers l'activité, l'interaction d'une multitude de gens. Alors, c'est pas les robots qui vont le faire, c'est pas un individu, c'est pas l'exploitation d'un individu, c'est l'exploitation de l'homme bionique augmenté, désirant tout ce que vous voulez.
Alors on va parler de qui au fond qui est en jeu dans cette lutte des classes d'un côté comme de l'autre, et puis quelle forme possible de lutte ça peut prendre, et puis de victoire pourquoi pas, parce que c'est pas forcément des défaites tout ça. Dans la deuxième partie de l'émission, mais tout de suite Thibaut Henton qui s'est plongé cette semaine dans son ordinateur pour répondre à la question: comment une requête sur Google peut-elle vous valoir 3000 euros d'amende?
Comment une requête, et non pas une requête, ça coûterait beaucoup plus cher sur Google, peut-elle valoir 3000 euros d'amende? Ça paraît absurde, mais c'est pourtant ce qui est arrivé à Bluetooth, journaliste hacker qu'on connaît bien à Place de la Toile, parce qu'il fait partie de l'équipe de Reflet.info, qui a notamment exposé le savoir-faire français en matière de surveillance profonde des réseaux, et ce, bien avant que Snowden ne fasse tout ce raffut. En l'occurrence, le dévoilement dont Bluetooth a été reconnu coupable n'était pas aussi sensible, quoique, puisqu'il concernait des documents de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES. Que lui reproche-t-on exactement? De s'être maintenu frauduleusement dans la base de données de l'ANSES et d'avoir volé quelques 8000 documents. Comme s'il avait dépossédé la base de ces données. Et c'est vraiment méconnaître l'informatique, où rien ne disparaît, tout se duplique. Mais passons. Là où ce jugement devient très bizarre, c'est que Bluetooth n'a pas été reconnu coupable d'accès frauduleux à la base de données, autre accusation qui pesait sur lui. Et là, je me dis, s'il n'est pas coupable d'avoir accédé frauduleusement aux données, c'est-à-dire s'il n'est pas coupable de piratage, et comment l'aurait-il été puisqu'il est arrivé à ces documents via Google? Grâce à une certaine maîtrise de Google, certes, mais rien de très compliqué. Grâce au moteur de recherche, il est possible de restreindre une requête à un type de fichier. Si je tape absurdité file type 2.pdf dans Google, ça me renvoie tous les PDF associés à ce mot. Puisqu'il n'est pas coupable de piratage, donc, que ces données étaient publiques, en clair, comment pourrait-il être coupable du reste? L'incurie dans l'affaire est donc d'abord à chercher du côté de l'ANSES, qui a mal sécurisé son extranet, puis du côté du parquet, qui a fait appel de la première décision du tribunal de Créteil qui avait décidé la relaxe de Bluetooth, relaxe mal digérée manifestement par le parquet. Incurie enfin du côté de la cour d'appel de Paris, dont les magistrats, à lire le récit de Mediapart, ne se sont pas illustrés par une grande maîtrise du sujet numérique, prononçant Google au lieu de Google et Login au lieu de Login. Bon, mais je n'ai pas envie de rester sur un sentiment d'absurdité, donc je cherche à comprendre. Ce qu'on reproche à Bluetooth, ce serait, disent certains, d'avoir téléchargé les documents et de s'en être servi dans un article, tout en sachant pertinemment que ces données n'auraient pas dû être publiques. Au lieu de simplement constater l'incurie et de la signaler gentiment à l'ANSES pour qu'elle règle le problème. Un peu comme on passera un coup de fil à un voisin qui aurait laissé sa porte ouverte au lieu de lui voler son canapé. Sauf que l'analogie ne fonctionne pas vraiment puisque cette maison n'a pas de mur. À moins de considérer chaque site comme une propriété privée emmurée, chaque site web comme un intranet, ce qui serait quand même inouï. Sauf que, bon, comme je le disais, il n'a rien volé à proprement parler. peut-être qu'en fait, ce qu'on lui reproche, c'est d'être mal intentionné en général, au-delà du cas ANSES. Une forme de vie, celle du hacker, lanceur d'alerte, de toujours chercher la petite bête, comme quand il se penchait sur le site à 400 000 euros de Carla Bruni-Sarkozy, oui, c'était déjà Bluetooth, de faire son travail de journaliste en fait, c'est-à-dire d'exposer des failles et pas seulement informatique. À ce moment, je me dis que ça aurait pu être plus grave, et je repense au cas de Weave, un hacker américain condamné à 3 ans et demi de prison pour avoir rendu public des brèches dans le système du géant de la téléphonie AT&T, le tout sans commettre là aussi d'intrusion frauduleuse ou de piratage. Bon, donc, pour qu'une requête Google coûte plusieurs milliers d'euros, il faut donc s'assurer qu'elle en dise plus long sur le chercheur que sur ce qui est cherché. Arise, you workers from your slumber. All you wage slaves, everyone. The revolution comes like thunder. Turn off their televised illusion. Stand up and look them in the eyes. Declare your mental liberation. Shake off the dust and claim the prize. So comrades. Merci Thibault, on vous retrouve dans quelques minutes pour votre complément d'enquête. Bluetooth se pourvoit en cassation, hein, si j'ai bien compris. Et là on écoute l'International dans la version qu'en donne le musicien et DJ américain Max Clayson. So comrades, come rally. In the last fight, let us face the internationale. Unites the human race. We've got something, something to prove, and everything to gain. Vous écoutez France Culture, Place de la Toile, le magazine des cultures numériques où nous parlons ce soir lutte des classes sur le web avec deux membres du comité de rédaction de la revue Multitude qui consacre son numéro 54 à cette question, notamment, enfin qui consacre la mineure de son numéro 54 à la question de la lutte des classes sur le web avec donc deux membres du comité de rédaction de Multitude, Yves Citon et Yann Moulier-Boutan. Alors, qui dit lutte des classes dit mise en front de catégories de population. Qui sont les vainqueurs, enfin les vainqueurs pour l'instant, ou disons qui sont les exploitants? Alors les exploités, on en a parlé tout à l'heure, hein, exploités, vous avez dit le travailleur chinois, le traducteur uruguayen, nous qui remplissons nos captchas, nous qui sommes sur Facebook, nous qui notre attention, voilà, ça ce sont les exploités. Mais qui sont les exploiteurs, Yves Citon?
Moi, je ne sais pas, mais je lis quelqu'un qui s'appelle Mackenzie Wark, qui avait fait un manifeste hacker il y a quelques années, qui a été traduit, puis qui est difficile à retrouver. Je crois qu'on va essayer de rendre de nouveau plus visible. Et donc, dont on a traduit une intervention qui prend un petit peu de recul, justement, sur son manifeste hacker, et qui, lui, nous propose d'identifier une classe vectorialiste. Donc, en gros, pour lui, il y a deux grandes classes. La classe des hackers, qui sont, en gros, les gens qui inventent, qui font du code, qui produisent des contenus, qui mettent des choses, enfin, qui créent, qui inventent, qui mettent des choses sur Internet. Et puis, en face de ça, il y aurait la classe vectorialiste. Alors, vectoriel ou vectorialiste, il n'a pas été capable de m'expliquer la différence entre les deux. Moi, ce que je trouve beau là-dedans, c'est la notion de vecteur. Un vecteur, c'est quoi? C'est à la fois quelque chose qui fait une sorte d'intermédiaire. Donc, il faut passer par un vecteur pour aller d'un point A à un point B. Donc, c'est intermédiaire. Et en même temps, vecteur, vectorialisé, c'est donner une certaine direction, donner une orientation, une direction, une intensité, etc., etc. Donc, gardons cette chose un petit peu abstraite et regardons ce que ça veut dire, la classe vectorielle. Alors, il distingue plusieurs domaines. D'une part, il y a les producteurs de hardware, Apple, Samsung, etc., qui produisent ces intermédiaires, ces choses dont nous avons besoin pour aller sur Internet.
L'objet,
les machines,
l'objet,
voilà, les appareils. Okay. Appelons ça les appareils. Bon. Ensuite, il y a les gens qui tiennent et qui mettent en place et qui entretiennent les réseaux. Parce qu'il y a des câbles, hein. Andy Bloom, vous avez fait une belle interview avec lui, etc.
Donc ça, c'est effectivement plein de câbles. C'est les entreprises télécom.
Voilà, télécom. Tout okay. ça, c'est du dur. Hein. C'est du dur. Et puis, il y a des gens qui contrôlent ça et il faut bien passer par eux. Et d'ailleurs, peut-être qu'on aura le temps d'en parler tout à l'heure avec Yann. Le libre et gratuit qui nous dit, ben voilà, tout est libre et tout gratuit, sauf qu'il faut quand même payer son abonnement. Il faut acheter son appareil chez Apple. Il faut acheter son abonnement mensuel avec Orange ou quelqu'un d'autre. Et donc là, il y a bien des gens, lorsqu'on fait du libre et gratuit, qui gagnent quelque chose de ça.
Je vais vulgariser ce que vous dites. C'est-à-dire que même pour télécharger illégalement sur torrents des fichiers et donc avoir l'impression de pirater, de participer à une économie du pair à pair non marchandisée, etc., et bien il faut des machines qu'on achète et il faut des bons abonnements de la fibre optique qu'on paye cher à des opérateurs télécoms. Voilà. Et donc, du coup, il y a les vecteurs qui, eux, s'enrichissent, les producteurs de machines ou ceux qui entretiennent les câbles. C'est ce que je traduis un peu
Parle Pasquinelli et quelques autres et Mackenzie Work dans le dossier. Je finis juste ça, après peut-être qu'on laisse parce que Yann sera sûrement pas complètement d'accord avec ça. Donc il y a aussi forcément les propriétaires de logiciels. Là, c'est plus vraiment du hard, mais c'est quand même de la propriété. Il y a des choses comme Facebook qui, voilà, il y a un peu de logiciel, il y a un peu de quelque chose, mais c'est plutôt parce qu'ils détiennent un certain réseau et qu'on va volontairement dans ce réseau, mais ils détiennent quelque chose, ils peuvent jouer avec l'économie de l'attention, etc. Tout ça, c'est toujours, on voit bien cette affaire de vecteurs, ils sont entre nous et nos amis. Il y a Facebook, il y a Apple, il y a tout ça. Et ils nous orientent. Hein. Google, c'est un vecteur aussi très beau parce que ça oriente. Chaque fois qu'on fait une recherche sur Google, c'est entre nous et le site sur lequel on atterrit. Et en même temps, ça nous oriente, ça nous vectorialise plutôt vers ce qui est en haut que vers ce qui est en bas, etc. Et dernière chose, pour illustrer l'étendue de cette classe vectorialiste, en gros, la finance, Goldman Sachs et compagnie.
Pourquoi ?
Qui sont là derrière ? Bah aussi parce que la définition que donne Mackenzie Work, c'est ce qui permet de réaliser la valeur. La classe vectorialiste. Okay. C'est ce qui permet de réaliser la valeur. Et si vous n'avez pas des investissements pour développer de nouvelles microchips, si vous n'avez pas des investissements pour développer, une fois que vous avez votre petit logiciel, pour que ça se diffuse, etc., et ben en général, ça passe par justement des vecteurs. Là, c'est les flux, c'est plus directement les flux d'images, les flux de contenu, mais c'est les flux financiers. Et il y a aussi des gens qui vectorialisent
ces flux-là. Les business angels de la Californie qui sont extrêmement importants dans l'économie californienne.
Et donc, la définition derrière ces différentes illustrations, il y a l'idée que cette classe vectorialiste, ça serait justement ceux qui réalisent la valeur, ceux par le vecteur desquels on doit passer pour faire ce qu'on fait, pour avoir le plaisir, le jeu qu'on veut avoir ou pour avoir accès aux choses auxquelles on cherche à avoir accès, et que eux sont justement mettent en place des dispositifs qui permettent de capturer ce travail ou ce plaisir pour le valoriser, pour le transformer en valeur, pour en réaliser la valeur sous forme financière.
Mais alors, on va donner la parole à Yann Moulier-Boutan, mais ce qui est extrêmement compliqué là-dedans, c'est que comment on lutte si on est exploité, s'il y a lutte des classes, que nous sommes à la fois tous ces exploités que vous avez décrits nous-mêmes. Le problème, c'est que par rapport au propriétaire d'une usine du 19e siècle, qui est un personnage incarné, là, pas loin, visible, auquel on peut s'adresser, et ça paraît extrêmement compliqué de trouver des formes de lutte et donc d'émancipation à l'intérieur de cette lutte-là.
Et puis après, on va parler. Je vais juste dire un mot et après, on laissera peut-être la parole à Yann. La fin du dossier, avant le texte de Yann, ça essaie de nous faire passer de la notion d'exploitation à la notion d'exploit. Et l'exploit en termes informatiques, on vient d'en avoir, que je connais mal d'ailleurs, mais si j'ai bien compris ce qu'on vient d'entendre Thibaut Henton nous raconter, Bluetooth, c'est justement ce qu'on appelle un exploit, à savoir il profite d'une faille dans un système. Et je vais vous lire, il y a un très beau livre d'ailleurs que je conseille, malheureusement qui n'a pas été traduit, mais qu'on va essayer, il faut absolument faire traduire en français, de Eugene Thacker et Alexander Galloway, c'est lui qui avait déjà développé la notion de protocole tout à l'heure, et ils nous disent qu'est-ce que c'est qu'un exploit, donc exploit. Et nous, on joue avec ce qui va répondre, une des façons, c'est pas forcément la seule, mais une façon de répondre à l'exploitation qu'on vient de décrire, c'est de penser et de développer des exploits. Qu'est-ce que c'est qu'un exploit ? Un exploit, ça demande un vecteur. L'exploit, donc, imaginons, enfin, rappelons-nous ce que Thibaut vient de nous dire sur Bluetooth, qui est rentré dans une faille et puis qui en a tiré quelque chose, qui l'a diffusé, puis ça n'a pas plu à certains, ça a donné des informations, des outils de lutte à d'autres, etc. Donc, l'exploit requiert un vecteur, un médium organique ou non organique dans lequel existe une forme d'action ou de mouvement. Il réclame, deuxième élément, une faille, on a vu, requiert un ensemble de vulnérabilités dans le réseau qui permettent au vecteur d'être logiquement accessible. Ces vulnérabilités sont également les conditions de réalisation du réseau. Il n'y a pas de réseau sans faille, on ne peut pas communiquer sans qu'il y ait des malentendus ou des problèmes dans la communication. Et l'exploit demande, troisième élément, une transgression. Il crée un déplacement dans l'ontologie du réseau dans lequel l'échec du réseau constitue une transformation de sa topologie.
Parce que du coup, Yann Moulier-Boutan, c'est ça qui est intéressant. C'est aussi comment ne pas désespérer face au constat qu'on a dressé pendant quasiment les trois quarts de cette émission.
Je voudrais juste revenir un petit peu sur cette histoire. Je vais là me servir de quelque chose d'important qui est dans une relation. La lutte de classe, c'est la lutte qui crée les classes et pas l'inverse. Donc, c'est pas la peine de se demander qui sont les exploités, qui sont les exploitants. Et après, on fait de belles recherches de le rapport est-il antagoniste ou pas, etc. Il faut penser que chaque fois qu'il y a de l'antagonisme, du clash, il y a en fait, du coup, la définition, si vous voulez, de proleptique comme résultat. Le résultat de la relation, ça va définir justement ce qu'on va appeler des classes,
d'accord,
ou une classe, ou deux classes qui se bagarrent sur quelque chose. Et donc, c'est un résultat, les gens. D'autre part, le vecteur, il faut bien comprendre que la relation, elle est orientée B vers A, A vers B.
Hein,
le principe d'un vecteur, c'est qu'il est orienté dans l'espace.
Ouais.
Ça permet d'avoir quelque chose qui permet de saisir de l'information dans un, justement, un espace multisectoriel. Et ben, vous avez un segment qui apparaît, un vecteur, qui va se combiner avec d'autres vecteurs, avec une troisième chose qui va être la résultante, et qui est très déroutante par rapport à ce qu'on a d'habitude, l'habitude de traiter dans une géométrie non orientée. Alors, là, ça peut paraître abstrait,
ouais,
mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on court après qui sont les classes vectorielles dont il a été question, on s'aperçoit que c'est tous les gens dont le boulot est la facilitation du relationnel. La création, les bases, la gestion des relations. C'est également, ça a été dit, la finance. Pourquoi la finance ? Parce que la finance traite des choses qui échappaient à la valeur, c'est-à-dire la pollinisation, les externalités. La finance, c'est le gouvernement par défaut des externalités, c'est-à-dire que c'est la façon dont on arrive à intégrer dans le calcul économique et dans une machine à cachiser, à rendre de l'argent, à traduire, hein, des choses qui n'y rentraient pas avant. Et donc, c'est ce mouvement-là qui provoque, si vous voulez, le fait qu'il y a un lien profond de l'intermédiation financière aux gens qui travaillent sur le câblage de la fibre optique. On est dans le même boulot.
Mais...
Alors, pourquoi c'est une crise, ce système-là met en crise les classes sociales de la sociologie, la définition, par exemple, d'un patron, etc. Parce que c'est un espace topologique, c'est un ensemble de vecteurs qui travaillent, et les moments d'antagonisme se saisissent quand il apparaît brutalement qu'un acte isolé d'un hacker ou un travail d'équipe, si vous voulez, révèle des choses fantastiques. Alors, par exemple, l'exemple qui a été donné tout à l'heure sur votre enquête, c'est quoi ? Ça révèle le problème, le statut étrange du point de vue des droits d'appropriation ou de propriété de ce qu'on appelle les banques de données.
D'accord.
Qu'est-ce que Facebook est en train d'accumuler ? Des banques de données gigantesques sur la planète. Comme on a actuellement, on a fait un droit sui generis de la banque de données, qui n'est pas le droit des auteurs. Quand vous mettez des choses sur Facebook, vous ne vous attendez pas à trouver un droit à recevoir un droit d'auteur dessus. Mais il se trouve que Facebook a des droits de propriété sur le stock parce que on a considéré que comme il accumulait, il emmagasinait, il entreposait ses données et les entretenait, eh bien il a un droit qui est le droit de l'investisseur en capital qui renouvelle ses droits de suite sur ces données. Et là, il y a une bagarre parce que on arrive à la question de la définition de qu'est-ce qui est commun, qu'est-ce qui n'est pas commun, comment on s'en sert, c'est-à-dire un débat complètement renouvelé sur les droits de propriété. Il ne faut pas oublier qu'un mode de production, ça se discute quand les modes de propriété, les modes d'attribution, les modes d'usage, les modes d'accès, les modes de suite sont en débat. Et là, on est en plein dans cette bagarre. Voilà la lutte de classe. La lutte de classe, elle est définie parce que dans des espaces relationnels, tout est rebrouillé. Les cartes sont totalement revues et corrigées, rebattues.
Et là, peut-être qu'on a juste le temps, Yann, d'introduire la notion aussi dont on parle dans le dossier, de pas seulement copyleft. Hein, il y avait le copyright, le droit de la copie, auquel on a opposé un copyleft, une autorisation à copier, mais qui était aussi la gauche left contre la droite right, mais de gens qui parlent de copy far left, en disant que le copyleft, laisser les gens copier, justement, c'est se laisser dépendre possédé de son travail et qu'il faut instaurer un copy far left qui dit les gens qui veulent s'approprier ce qu'on met sur Internet pour en faire quelque chose dans des coopératives ou pour eux-mêmes, tant mieux, mais si ça doit se faire réapproprier pour du profit, alors là, nous, on en garde le droit de propriété.
Alors, juste une seconde, vraiment très court, Yann Mouillet-Boutan.
Oui, absolument. Bon, alors je dirais simplement que c'est la grande bagarre qui va apparaître. C'est les communs, le statut des communs, et finalement, qu'on va se contenter de dire qu'il y a le domaine public où tout le monde peut venir se servir, sans s'occuper de comment il est produit, comment il est protégé, et les citoyens ou les cybernautes, est-ce qu'ils vont avoir voix au chapitre sur toutes ces immenses données sur le web et lutter contre une forme de pouvoir exorbitant des possesseurs de banques de données. Donc là, il y a un énorme champ. Ça commence, il y a plein de bagarres qui sont en cours. Google, par exemple, si vous voulez, va utiliser, il faut comprendre les enjeux économiques, Google va utiliser la SNCF, va utiliser la loi, la directive européenne qui dit que toutes les entreprises publiques, les compagnies d'autobus, de chemin de fer doivent donner leurs horaires. Et à partir de ces horaires que Google pompe, aspire gratuitement, eh bien, il va devenir d'accord. le premier billetteur.
Okay,
or, tous les modèles économiques reposent sur une économie de portail et la SNCF gagne de l'argent sur la fréquentation de ces billetteries.
On est à la toute fin de l'émission, il reste quelques minutes et c'est Thibaut qui va prendre la parole pour son complément d'enquête.
Attendez un instant, j'en ai pour une seconde. Il y a une question que je voudrais vous poser. Je ne sais pas que ce soit très important.
Thibaut.
Oui, alors par rapport à ce que vous disiez sur les plateformes qui captent la valeur produite par la multitude, j'ai envie de me mettre à leur place et de vous rétorquer, mais d'accord, ok, la multitude communique, tout ça, crée une forme de valeur que nous on exploite ensuite, mais c'est nous qui avons inventé les algorithmes, c'est nous, c'est nos ingénieurs, c'est nos brevets, c'est notre propriété intellectuelle.
Yann.
Le problème, c'est comme on est en plein dans la lutte de classe, c'est-à-dire la répartition de cette valeur qui est issue et qui n'est pas simplement de la production. On est dans une situation où, si vous voulez, c'est comme si un patron disait « moi je produis, c'est moi qui ai les machines, hein, c'est moi qui ai les infrastructures, c'est moi qui paye des ingénieurs et qui met les connaissances en route, donc c'est moi qui ai le droit de percevoir la totalité. » Et là, il n'est même pas, comme ça a été dit au début de l'émission, ce type de patron va vous dire « je n'ai même pas à vous payer, je ne reconnais même pas que le click worker, il travaille. » Donc, si vous voulez, on parlait de la lutte de classe sur le web, on est là dans un état pré-lutte de classe de ce point de vue-là.
Et justement,
Les cliqueurs ne s'organisent pas encore en disant, comme dans le web 3.0, eh ben voilà, on donnera des usages, on préfère donner des usages à des opérations qui augmentent les anciens communs ou les nouveaux biens communs. Et en revanche, par rapport à ceux qui en font un usage commercial, eh bien, il faudra qu'ils apprennent à payer les contributeurs et les abeilles pollinisatrices.
Oui, tout à fait. Ou une autre façon, mais très rapide, de répondre à ça, enfin de lancer une piste pour répondre à ça, c'est de dire qu'on n'est pas, on est moins dans un modèle de capital, on parle de capitalisme, on est moins dans un modèle traditionnel de capital où on investit quelque chose, plutôt que, on est passé plutôt dans un modèle de rente. Et donc c'est plutôt, et c'est Pasquinelli qui parle de parasite, hein, il reprend à Michel Serres la notion de parasite, il dit pour bien comprendre cette économie-là, il faut mettre au premier plan la notion de parasite, et c'est plutôt une économie de la rente, donc en quelque sorte pré-capitaliste, j'ai ce territoire, et vous venez sur mon territoire, je peux vous louer, mais je garde une partie de la production, même si c'est vous qui bossez. Donc de penser toute cette économie à partir de la rente plutôt que du capital, ou autant que du capital, ça déplace les frontières et ça rend des choses intéressantes justement pour penser les luttes.
Et vous, Yves Citon, cette alliance entre activistes, travailleurs cognitifs, travailleurs de l'industrie électronique, vous la voyez prendre quelle forme ?
Moi, je ne la vois pas prendre de forme, pour être tout à fait honnête, et peut-être mon aveuglement, mais il faudrait que ça prenne forme très vite pour changer les choses, en particulier pour des orientations environnementales qu'on doit prendre très vite, et ça ne se prend pas. Donc, il faut que Yann nous dise quelque chose de plus optimiste, parce que lui est très optimiste là-dessus.
Vous avez 12 secondes, Yann, les boutons.
Oui, bon, il y a plein de choses qui montrent déjà ces traductions d'alliance. C'est-à-dire que les trous, en passant par les hackers qui découvrent les trous, les failles, les citoyens qui ont des effets quand même de sidération par rapport à la façon dont est utilisé cet ensemble de données, qui commencent à s'organiser là-dessus, l'inventivité de ça et son caractère innovatif commencent à organiser des regroupements qui ressemblent tout à fait à la façon dont les paysans en 5 siècles ou 10 siècles ont construit ces communs. Ces communs, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain.
Bon,
ils n'ont pas été tombés par la main divine. Ils sont le produit de bagarres pour imposer une certaine forme d'usage, une certaine forme d'appropriation des choses.
Mais Yann Moulier-Boutan, je suis obligé de vous interrompre. Je pense qu'on va falloir qu'on consacre une émission à nouveau à la question des communs et voir comment ils sont élaborés depuis 500 ans. Je pense que c'est tout à fait un objectif aux Places de la Toile de faire ça en 50 minutes. Merci beaucoup à tous les deux, Yves Citon et Yann Moulier-Boutan. Je renvoie au numéro 54 de la revue Multitude, qui est donc consacré à la lutte de classe, la lutte des classes sur le web. Vous pouvez évidemment trouver toutes les références de ce numéro sur le site de Place de la Toile, où vous pouvez aussi télécharger cette émission pendant un an et la réécouter pendant 1000 jours, www.franceculture.fr. Alors, la semaine prochaine, on aura la chance de recevoir Pierre Lévy, le philosophe Pierre Lévy, pionnier de la réflexion sur les réseaux et défricheur intellectuel de la théorisation d'Internet. Il vit depuis longtemps au Canada, il est rarement de passage à Paris, mais il passera par Place de la Toile. Un grand entretien donc avec Pierre Lévy sera samedi prochain, 18h10, Place de la Toile, Thibaut Henton, Xavier Delaporte, stagiaire Idir Bénard. À la technique, ce soir, c'était Jacques Hubert, réalisation Vanessa Nadjar. Dans quelques instants, vous retrouvez le magazine de la musique d'Elisabeth Tchungi sur Écoute. Bonne soirée, bonne semaine.